Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Pendant la guerre en Centrafrique en 2013, nos maisons étaient brûlées, tout ça, nos essais étaient incendiés, donc on était rentrés, mais brûlés. Il était très difficile pour nous d'être impliqués maintenant dans le cas des réfugiés. Ce qui a fait qu'on s'était dispersé, le gouvernement n'a pas pris en compte toutes nos charges, c'est comme ça.
Les réfugiés, on en parle aujourd'hui dans le club, notre rendez-vous chaque samedi à 17h et chaque dimanche à 7h, temps universel, animé par Mireille Drone. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour commencer, merci à tous ceux qui nous écrivent pour exprimer leur attachement à nos émissions ou tout simplement nous dire un petit bonjour d'un coin ou d'un autre du monde, comme Samuel depuis la Chine ou plus près de nous, Johan de Valencia en Espagne, Ahmad de Meknès au Maroc, Badiko de Mamou en Guinée, Louis de Boaké en Côte d'Ivoire, Junoël de Lomé au Togo, Mohamed de Gao au Mali et Wilson de Kinshasa en RDC. Et félicitations aussi à ceux qui ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, à savoir Reza Wilfried de Lomé au Togo et Ousmane d'Antimon au Tchad. On a du mal à se l'imaginer, pourtant 34 000 personnes fuient chaque jour leur foyer en raison de conflits et de persécutions, selon les chiffres de l'ONU. La journée du 20 juin chaque année a été déclarée par les Nations Unies Journée mondiale des réfugiés. Elle donne l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la détresse des réfugiés et des personnes déplacées dans les diverses régions du monde et les causes de leur exil notamment. À cette occasion, vous avez été nombreux à réagir, comme Ibrahim de Douala au Cameroun. Il remarque qu'une telle journée ne devrait même pas exister si seulement on pouvait éviter d'occasionner des guerres, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est la paix. Hélas, les guerres et conflits politiques n'en finissent pas, forçant à l'exil des millions de personnes dans le monde, et Mokhtar Darlit au Niger souligne que c'est un droit.
Moi, j'aimerais souligner que le fait de réfugier vers un autre État, surtout l'Europe, c'est ça qui m'inquiète, c'est ça qui me dérange, ça m'intrigue. Mais le fait d'immigrer, c'est un droit en soi, surtout dans des contrées où il y a des problèmes politiques et dictatoriels. Donc c'est normal de faire le refus de changer de cap. Et ici, par exemple, à Arlit, moi je suis dans une ville où c'est même le point de départ des réfugiés. Tous les réfugiés de la sous-région ici en Afrique viennent par là, à Arlit, avant de passer vers la Libye pour ensuite prendre le cap de la Belgique, de l'Italie et autres, en quelque sorte de l'Europe, quoi. J'en connais beaucoup ici parce qu'ils passent des séjours avant de passer dans d'autres directions.
Amine Danaba en Algérie appelle les pays d'Europe notamment, qui tentent de dissuader par tous les moyens les migrants de venir chercher refuge chez eux, à faire preuve de solidarité.
Je salue tous les pays qui s'activent pour accueillir ces réfugiés. L'Algérie aussi est un pays qui a accueilli plusieurs réfugiés, notamment les Syriens, les Africains aussi. J'aimerais bien que tous les autres pays européens soient en solidarité avec ces réfugiés. Parce que ces réfugiés, ils ont fui leur continent à cause de la souffrance, à cause des guerres civiles, à cause de la pauvreté, à cause de la propagation des maladies, de manque de médicaments et de nourriture, à cause de l'absence de la paix, et tous ces facteurs ont poussé ces réfugiés à fuir leur pays mère pour arriver à des pays où il y a la paix et tout ce qu'il manque à ces réfugiés dans leur propre pays. Je remercie tous les pays qui pensent vraiment à aider et à planifier un programme éducatif et un programme de santé réservé à ces réfugiés. J'ajoute aussi qu'il faut bien encadrer ces réfugiés. Il ne faut pas les laisser au hasard. Il faut les surveiller. Il faut veiller à ce qu'ils soient en bonne condition.
Trésor, originaire du Tchad et lui-même réfugié, il a dû fuir la crise centrafricaine et a tout perdu pendant cette guerre qui l'a marqué à jamais.
Quand j'étais en Centrafrique, j'étais dans le cadre des études. Donc, pendant la guerre en Centrafrique en 2013, là, nos maisons étaient brûlées, tout ça, nos essais étaient incendiés, donc on était rentrés mercredi. Il était très difficile pour nous d'être impliqués maintenant dans le cas des réfugiés, qui a fait qu'on s'était dispersé. Le gouvernement n'a pas pris en compte toutes nos charges et puis c'est comme ça. On s'est retrouvés aujourd'hui en pêle-mêle, qui fait que jusque-là, on a encore des psychoses, ces troubles de la guerre en Centrafrique.
Parce que vous avez été dans une région où il y a eu des combats ou
Oui, on a fait le 12 décembre 2013 les quartiers. On a fait 2 semaines au niveau de l'aéroport militaire de Bangui. Et dans les 2 semaines, on nous donnait, comme ils ont coupé l'eau au sein de l'aéroport militaire, puis l'aéroport militaire est juste à côté de l'aéroport civil. Pendant les 2 semaines, on nous donnait chacun le demi-pain et puis avec 2 litres d'eau, donc c'est pour 24 heures. Il a fallu maintenant que lorsque tu quittes l'aéroport militaire pour aller ailleurs, on peut te décapiter avec des machettes dont on avait tellement peur. Comme étant chadien, on nous prenait aussi à des mercenaires, ce qui a fait qu'on avait vraiment souffert 2 semaines à l'aéroport, chaque jour avec 2 pains et 1 demi-litre, ça ne veut rien dire.
Donc c'était des conditions très difficiles.
Les conditions très difficiles, là, on était rentrés mercredi. Moi, particulièrement, j'ai perdu tous mes diplômes, les livres, les essais, tout ça. Et là, c'était question peut-être pourquoi on nous rétablisse tout ça, mais il n'y avait rien qui était fait. Donc, on avait considéré comme des dossiers classés sans suite.
Il vous a fallu refaire faire tous vos papiers, du coup, vos diplômes et tout ça, ou vous n'avez pas réussi?
Oui, bon, après, j'avais envoyé à Bangui, à l'université de Bangui, ils m'ont retiré mes diplômes. Et puis, actuellement, je suis à Dakar pour continuer les études. Quand j'étais rentré au Tchad, il n'y avait pas d'autres possibilités pour continuer. On ne m'a pas recruté. Je suis parti à Yaoundé. Yaoundé, ils ont clôturé l'année. Donc, vous avez vu, j'ai perdu 2 ans inutilement à cause de la guerre. Donc, j'avais quitté en pleine guerre. Pleine guerre. Oui, et là, le gouvernement tchadien nous a rapatriés et c'est dans des conditions désastreuses, surtout avec l'hélicoptère, c'est uniquement pour des bagages. Et ça, c'est un avion militaire, il faut aussi porter des casques. Mais quand on était monté dans l'avion, en rentrant, surtout à l'atterrissage, c'était pas facile. Il y avait tellement de cas pour les enfants et les femmes enceintes qui étaient évanouies.
Qui se sont évanouies, vous dites?
Oui, en plein vol, puisque là, il y a, comme c'est un avion militaire, il n'y avait même pas des hôtels de l'air pour aussi donner de l'eau.
Bien sûr.
Les femmes qui sont enceintes et puis les enfants. Les gens tombaient en vrac et le poids aussi était dépassé. On était plus de centaines dans l'avion. On nous a atterri à l'aéroport militaire à Farsha, président Njamena. Et à ce niveau, quand c'était dispersé, chacun a pris le taxi pour rentrer au quartier. Les autres, ils sont aussi intégrés. Ceux qui ont pris la voie routière, c'est ceux-là actuellement qui sont au niveau de la frontière à Gorée. Comme ils ont pris la voie routière de Bangui, Gorée, donc, ils sont obligés de les bloquer à ce niveau.
Et donc, c'était des expériences traumatisantes qui vous sont restées, bien sûr. Est-ce que vous avez pu bénéficier d'une assistance psychologique pour parler un petit peu de ça?
Non, juste là, je ne sais pas. Dès que moi, particulièrement, quand je vois un militaire, je m'énerve tout seul. Et ça, c'est très difficile pour moi de faire supprimer ou effacer cette image-là en moi. Parce que la manière dont on nous a torturés et puis on a perdu assez de compatriotes. Des étudiants où il y avait 2 sociologues, un anthropologue, ils ont cassé les portes sur eux, ils ont égorgé nos compatriotes. Le 4e cas, lui, c'est un géographe. Ils ont vu juste sur sa carte d'étudiant, comme au Tchad, on a 2 langues, l'arabe et le français, ils ont vu l'écriture arabe, ils l'ont confondu à un musulman et puis ils l'ont décapité.
Décapité.
Sous la surveillance des militaires français, juste à côté de leur char là. Quand il était parti, il a fui d'abord, il s'est réfugié sous leur char. Et puis les Afghans étaient venus le récupérer pour le décapiter devant l'aéroport civil. Vous voyez un peu, c'est vraiment inhumain.
Bien sûr, ça laisse des traces, c'est quelque chose d'inoubliable.
Ah oui, inoubliable. Donc cette image est restée à moi jusque-là. Dès que je vois mes compagnons de la galère, des fois, quand on se voit, les larmes coulent, tout ça. On n'a pas choisi ça, la guerre, mais il y a aussi des questions politiques et ça s'est engendré sur la crise des citoyens.
Et donc, si vous aviez un appel à formuler à propos des réfugiés, qu'est-ce que vous demanderiez?
Pour eux, bon, pour ceux qui ont perdu tous leurs papiers, peut-être beaucoup de courage et d'aller au-delà de leur morale pour oublier cette histoire. Parce que ce qu'ils ont traversé en Centrafrique, personne n'a vécu ça au Tchad. S'ils oublient tout ça, si ça va aller, comme ils sont intégrés, ben, c'est dans le cadre du Alter, mais ceux qui n'ont pas eu la chance de sortir ou qui sont bloqués aussi à Mbamana et d'autres jours, ils gardent toujours le courage, disons un jour ça va aller.
Et pour les pays d'accueil de réfugiés, vous pensez qu'il y a une assez grande tolérance pour les réfugiés?
Ben, ceux qui sont aujourd'hui aussi de Gorée à la frontière RCA, même ils sont dans des conditions aussi compliquées. Il y a toujours manque de nourriture aussi potable. Il y a surtout les enfants. Il faut qu'ils regagnent aussi les bancs de classe pour étudier. Surtout les enfants, ils ne vont pas continuer à rester comme ça. Et les femmes qui étaient torturées, c'est très difficile. Une femme qui est enceinte, qui a fait ses tortures, elle met au monde des fois un enfant, on peut dire entre guillemets, rebelle en fait. Un enfant délinquant qui est vraiment traumatisé.
Des enfants traumatisés, il y en a beaucoup aussi en RDC, et pas que des enfants d'ailleurs. Damien, auditeur de Kinshasa, se lamente de la situation qui prévaut dans le Kasaï, meurtri par des tueries. Trop c'est trop, écrit-il, on n'arrive pas à entrer en contact avec nos familles réfugiées en brousse. Depuis bientôt un an, nous sommes sans communication, les larmes ne font que couler jour et nuit.
Encore au 21e siècle de notre monde, tant de guerres. Victimes. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays loin, loin.
Il faut que l'ONU suggère aux États qui accueillent les réfugiés de prendre soin des femmes et des enfants et d'accroître les moyens sanitaires pour les déplacer, suggère Williams de Douala au Cameroun. Le Tchad est l'un des pays d'accueil des réfugiés en Afrique. On y compte environ 400 000 réfugiés, dont plus de 300 000 Soudanais, 73 000 Centrafricains et 8 000 Nigérians. Ali est travailleur humanitaire au camp de Gozamer qui accueille des réfugiés soudanais du Darfour. Il nous parle des conditions de vie sur place.
Actuellement, nous sommes à presque 33 000 personnes.
33 000 personnes ?
Oui, 33 000 personnes.
Et donc, ce sont tous des réfugiés soudanais qui viennent du Darfour ?
Oui, ce sont des réfugiés soudanais qui viennent du Darfour.
Et depuis quand sont-ils dans le camp maintenant ?
C'est depuis mars 2004.
Mais est-ce qu'ils ont tous des papiers ou est-ce que dans leur fuite, ils ont aussi en partie perdu leurs papiers qui leur permettent d'être identifiés ?
Bon, la majorité, c'est des gens qui ont perdu les papiers.
Oui.
Et vous savez même que dans leur village d'origine, le niveau d'éducation n'est pas tellement élevé. Et puis, peut-être avec les jeunes qu'on peut trouver des papiers justificatifs, mais avec les personnes, généralement, c'est des personnes qui n'ont pas de papiers.
Et comment vous faites donc pour rétablir des papiers à des personnes qui ont tout perdu ?
Bon, nous avons une base de données où les gens sont arrêtés et puis nous délivrons également des documents d'état civil et tout au niveau du camp.
Oui, mais le Tchad n'est pas seul à supporter ce camp de réfugiés, j'imagine. Il bénéficie aussi de l'aide du HCR.
Le HCR et d'autres partenaires qui opèrent au camp.
Et quels sont les besoins les plus essentiels de ces réfugiés ? Parce que c'est une véritable ville, c'est une très grosse ville finalement.
Oui, c'est une très grosse ville. Au début, bon, au moment des urgences, les gens étaient souffrante, mais maintenant, c'est devenu presque inutile. Il y a des personnes qui s'adonnent aux activités socio-économiques.
Oui.
Il est vrai qu'il y a des ménages qui sont toujours vulnérables, mais la plupart des gens se débrouillent maintenant.
Oui, et c'est-à-dire qu'ils bénéficient de toutes les infrastructures médicales, écoles pour les enfants, ainsi de suite.
Oui, les infrastructures éducatives, sanitaires, disons, toutes les infrastructures essentielles de base sont là.
Et les écoles aussi, donc, les enfants peuvent suivre une scolarité tout à fait normale.
Oui, tout à fait normale jusqu'à la classe de terminale.
Mais ensuite?
Ensuite, il y a un programme pour les bourses universitaires, mais ce n'est pas tout le monde, c'est un programme qui est sélectif. Et pour ceux qui n'ont pas le mérite de bénéficier de ça, peut-être c'est avec le soutien des parents qui peuvent aller pour les études universitaires.
Et quelles sont les perspectives pour toutes ces personnes de réintégrer un jour un pays? Enfin bon, au moins il n'y a pas le problème de la langue avec le Tchad, mais est-ce que ces personnes, vous dites que certaines s'adonnent à des activités économiques, quelles sont leurs perspectives en réalité?
Bon, la période de urgence est passée, nous sommes au niveau de la phase de développement. Et pour ce qui est des solutions durables, il y a trois options qui sont possibles. Une des options est peut-être l'intégration locale. Et il y a aussi la solution de la réinstallation. Ça, c'est pas tout le monde, mais c'est qui sont concernés.
La réinstallation au pays d'origine?
Non. C'est dans le pays tiers. Il y a des pays tiers qui donnent des quotas pour accepter certains cas spécifiques, tels que des cas médicaux et autres pour les prises en charge.
Oui.
Donc, il y a des ménages qui peuvent bénéficier de ce processus-là. Et pour le reste, il y a l'intégration locale qui sera proposée plus tard ou bien le retour volontaire au pays d'origine.
Oui.
Donc, ce sont les trois options de solutions durables proposées pour le moment.
Et comment les Tchadiens eux-mêmes accueillent-ils ces réfugiés? Parce que pour l'instant, dans le camp, ils vivent pratiquement sur eux-mêmes, en autarcie. Mais comme vous dites, éventuellement, qu'il est question justement de les intégrer à la société, comment les Tchadiens eux-mêmes voient la présence de réfugiés au Tchad?
Bon, plus précisément dans le camp de Gozanir où je suis, ce problème ne se pose pas. L'intégration est, on peut dire, quasi parfaite. Parce que c'est un point où il n'y a pas de problème d'accès à l'eau. Et pour ce qui est même du problème d'accès à la terre cultivable avec l'implication des autorités et tout, les gens parviennent à quand même trouver des terrains où cultiver et tout. Donc pour ceux qui envisagent d'opter pour la réintégration locale, il n'y a pas de problème qui se pose.
Ça ne suscite pas de jalousie de la part des autochtones?
Pas du tout.
Notez toutefois que l'afflux massif de réfugiés a exacerbé les vulnérabilités déjà existantes dans les régions d'accueil, rendant difficile l'accès aux services sociaux de base. C'est pourquoi le gouverneur de la région du lac Tchad, une des régions qui abrite environ 5000 réfugiés nigérians, plaide pour une assistance dans ces régions en faveur de la communauté hôte. Yves de Dakar, mais originaire du Tchad, estime de son côté que les réfugiés du Darfour sont une provocation du président Déby par rapport à la création de la rébellion du MJE. Celui de la Centrafrique est lié également au fait que le pouvoir d'Idriss Déby a décidé de renverser l'ex-président François Bozizé en armant la Séléka de Michel Djotodia. Donc, dans les deux cas, le pouvoir central tchadien est à l'origine de ces migrations, affirme Yves. Pour ce qui est du lac Tchad, Boko Haram provoque des déplacements massifs, mais pourquoi les pays concernés ne financent-ils pas leurs ressortissants réfugiés? Voilà le problème. Le Nigeria, le Soudan et le Niger sont des pays pourtant plus riches que le Tchad, proteste Yves depuis Dakar. Tom de Béni en RDC pense, lui, qu'il faut faire passer le message aux Occidentaux qui refusent d'accueillir les réfugiés et qui ont baissé leur contribution au HCR, que ce sont des pays à faible revenu qui accueillent le plus grand nombre des réfugiés. Et de citer par exemple justement le Tchad, mais aussi l'Ouganda, la RDC, le Liban, la Turquie, etc. Les pays développés devraient avoir honte et faire plus, estime Tom. L'histoire nous apprend que n'importe qui peut être réfugié un jour. Bientôt, il y aura même des réfugiés climatiques, souligne-t-il. Alors, pourra-t-on laisser tous ces réfugiés laissés pour compte?
Une maison. Des habitudes. Un futur.
Alors c'est justement pour attirer l'attention de tous que le cinéaste mexicain Alejandro Iñárritu a réalisé une installation en réalité virtuelle qui plonge les participants au milieu des migrants pour leur faire vivre quasi physiquement ce qu'endurent les Mexicains qui tentent de passer le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cette installation a été présentée au mois de mai au Festival du film de Cannes et les festivaliers qui ont pu y avoir accès en ont été bouleversés. En témoigne ce participant.
Donc il y a toute une mise en place qui est assez stressante parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va voir tout à fait. Donc on se retrouve effectivement allongé le couloir de le mur mexicain. On attend dans un sas très longtemps. On attend longtemps dans un sas.
Comme si vous étiez vous-même un réfugié.
Tout à fait. Donc on nous demande d'abord d'enlever les chaussures. Donc on est pieds nus. Le sas s'ouvre, on rentre dans une énorme pièce carrée, avec des murs noirs. Il y a du sable partout. Et là, effectivement, donc on nous met le casque, les oreilles, le sac à dos, le sac à dos des Mexicains, des migrants qui traversent le désert. Et donc là, on est plongé, effectivement. Donc on se retrouve, il y a des Mexicains qui vont arriver pour traverser la frontière et on les suit. Et au moment où on les suit, effectivement, il y a des policiers qui arrivent et qui commencent à faire les arrestations des Mexicains. Et donc vous avez le droit de vous balader où vous voulez dans le décor. Donc au début, on est un peu spectateur parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on doit interagir? Est-ce qu'effectivement, les policiers vont nous arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Donc on est un peu spectateur au début de l'expérience, mais au fil des minutes, ça devient tellement intense que vous réagissez presque comme les migrants qui sont couchés par terre. Il y a même un moment où effectivement le policier va jusqu'à vous demander à vous de vous coucher, etc. Et donc vous obéissez parce que c'est tellement réaliste et tellement fort que...
C'est stressant, j'imagine.
C'est très stressant. C'est effectivement, on oublie complètement ce qu'au début ils vous disent, attention, on vous retiendra si vous allez trop loin parce que forcément il y a la limite du décor. Mais à un moment donné, on oublie complètement ce décor. On ne sait plus du tout où on est. C'est la nuit, il y a les hélicoptères qui passent, les policiers qui hurlent et tout. Et c'est effectivement bouleversant. Et quand on sort de là, même là, ça fait une demi-heure, j'ai encore les yeux, j'ai encore la tête qui chancelle un peu. Enfin, on est vraiment... On part dans une réalité qui est atroce, effectivement, que malheureusement les Mexicains et les migrants vivent au quotidien. Et c'est difficile. On ressent en tout cas, effectivement, les émotions qu'ils peuvent avoir.
Et au-delà de l'innovation technique qui permet de faire ce genre de film, maintenant, est-ce que vous pensez qu'en effet, de plonger un spectateur dans cet univers-là, ça peut aider à mieux comprendre la problématique des réfugiés et avoir peut-être plus de tolérance aussi?
Ça peut, le problème c'est que pour le moment, effectivement, l'expérience n'est visible que pour des journalistes et des gens comme ça qui sont quand même au fait des choses et qui ont une conscience peut-être supérieure au grand public. Donc voilà, pour le grand public, il y aurait certains qui auraient vraiment besoin effectivement de ressentir ça, il faudrait qu'ils aient accès à cette expérience. Après, le problème de l'expérience fait que la lourdeur de l'installation, etc., fait que là, par exemple, ils font à peu près une cinquantaine de personnes par jour. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un début. Il faut bien commencer quelque part. Et ça va donner des idées à d'autres gens. Il y a d'autres gens talentueux, autres que Iñárritu, qui vont pouvoir faire ça. Il y a des sociétés qui vont mettre de l'argent dedans, des fondations qui vont mettre de l'argent dedans. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un bon moyen de effectivement, lancer un message. Enfin, c'est même très fort. Donc voilà, on est vraiment qu'au début, donc oui, c'est possible, mais bon, ça va prendre du temps quand même.
Et vous pensez que d'introduire ce genre de spectacle, politique finalement, dans un festival comme Cannes, c'est une bonne chose?
Toujours, de toute façon, Cannes a toujours été politique, de toute façon... L'art est politique en soi, donc un film est politique, une œuvre comme la réalité virtuelle est politique, donc encore plus là, c'était nécessaire et effectivement, ils ont marqué un grand coup. Enfin, c'était vraiment, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est vraiment quelque chose de très fort.
Voilà, si vous voulez réagir à ce club ou bien sur tout autre sujet qui vous tient à cœur, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer par exemple un courrier électronique. Mon adresse c'est mireille.drone@dw.com. Vous pouvez aussi laisser vos messages écrits ou parler via WhatsApp. Pour vous inscrire, tapez tout simplement dw.com/ WhatsApp et vous serez guidé pour entrer en contact avec nous. Et en plus, vous recevrez nos informations gratuitement. Je vous invite également à consulter notre site internet en tapant dw.com/français, exceptionnellement sans cédille. Vous y retrouverez toutes les émissions du Club de l'Auditeur et bien sûr tous nos programmes à télécharger dans la rubrique médiathèque en haut de la page d'accueil, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. J'espère donc vous lire très très bientôt. En attendant, bonne continuation à tous et bon week-end. Au revoir. Passport control, passport you've not. Truth you have told, they say it's not enough. There's no evidence of a firing squad. And your president, they say, is living large. Refugee, refugee, sing me a song. Paint me a picture of where you're running from. Refugee, refugee, bring me along. There is a future where we all belong.